les jardinières.
C'est reparti pour un nouvel épisode des jardinières. Avec vous, Mylène, bonjour.
Bonjour Noélie, bonjour à toutes, bonjour à tous.
On a le plaisir ce matin de recevoir Christophe Boischat. Vous êtes notre invité, bonjour.
Bonjour, un plaisir d'être de retour parmi vous pour une petite émission printanière, enfin presque.
Vous êtes paysagiste et propriétaire de Jardin Conseil au Noirmont et ce matin, on va parler d'un rêve que beaucoup de jardiniers partagent, avoir un beau jardin sans y passer toutes ses journées.
Oui, un jardin avec moins de contraintes, moins d'entretien, mais qui reste agréable, vivant et accueillant. Les jardinières, c'est jusqu'à 8h, soyez les bienvenus.
7h, 8h, les jardinières.
Christophe, on est à la mi-mai et cette semaine, la météo s'est clairement rafraîchie. C'est les Saintes Glaces, le froid est revenu après une belle période. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin?
Alors, le mot d'ordre, c'est la patience. Parce que c'est vrai qu'on voit partout des plantons, des fleurs, etc. Ça fait déjà quelques semaines qu'on me demande « Ah, mais je peux planter ?» Et c'est vrai qu'il faut prendre son temps. Il y a des plantes qui sont vraiment très sensibles, genre tout ce qui est tomates, courges, basilic. Il faut vraiment attendre ou alors il faut protéger avec un voile d'ombrage et puis faire attention au gel. Par contre, tout ce qui est plantes vivaces et arbustes, on peut y aller sans trop de soucis.
Merci Christophe, vous restez avec nous jusqu'à 8h en seconde partie d'émission. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs, vous pourrez nous appeler et parler en direct avec notre invité. Ça se passera au 0900 70 20 20. Si vous préférez, vous pouvez nous envoyer un SMS, c'est aussi possible, en tapant le mot jardin en début de message. Et puis vous laissez un espace, votre question, votre nom et vous nous envoyez tout ça au 939. Vous pouvez aussi laisser votre question sur le formulaire sur notre site, avec la possibilité de joindre une photo.
Et juste après la musique, on verra si le jardin sans entretien existe vraiment ou si c'est surtout une question de bon choix dès le départ. Bienvenue chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie de Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Ce matin, on parle des jardins faciles à vivre. Christophe, quand on entend jardin sans entretien, ça fait rêver, mais... Entre nous, ça existe vraiment?
Ah, c'est très compliqué d'avoir un jardin sans entretien, donc je dirais non. Mais de réduire au maximum l'entretien, là, il y a un tas de possibilités et puis on va en parler.
Et justement, au fond, l'idée, c'est surtout d'avoir moins de contraintes et plus de plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jardin devient rapidement fatigant à entretenir?
Bah, si on a trop de surface à tondre, des plantes inadaptées, on a taillé trop fort... des massifs trop petits, et puis on parlera aussi un petit peu du paillage qui peut aider justement à limiter le développement d'herbes indésirables.
Et Christophe, parmi les phrases qu'on entend souvent en jardinage, on entend la bonne plante au bon endroit. Mais pourquoi c'est aussi important de le dire?
En fait, on peut souvent voir des plantes qui sont... les plantes, elles ont chacune un peu leurs exigences. Je pense notamment au soleil, puis au sol, hein, si on fait déjà simple. Et de mettre une plante qui a besoin de beaucoup d'eau dans un talus plein sud, il faudra l'arroser. Une plante qui sera dans une zone trop humide alors qu'elle aime le sec, elle aura des problèmes de maladie. Donc effectivement, si on choisit les plantes au bon endroit, on arrive à s'économiser beaucoup de travail et puis surtout la plante se portera mieux.
Alors justement, choisir des plantes adaptées au terrain ou à l'exposition, ça demande de savoir exactement de quoi a besoin notre plante. Et ensuite, ça permet de réduire la quantité de travail.
Oui, tout à fait. On va réussir à réduire la quantité de travail, surtout je pense à l'arrosage. On fait un talus, on a tout à coup un talus sec quelque part côté sud. Si on adapte la végétation... On peut ne presque rien faire et le laisser se développer tranquillement. Ou alors aussi par rapport à... Maintenant, on a beaucoup de choix au niveau des prairies. On a des choix de graines qui sont adaptées à des expositions différentes. Et puis, on arrive à avoir des résultats qui sont top avec à peu près pas d'entretien et puis une superbe biodiversité.
Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, le paillage, couvrir le sol. Entre couvre-sol pardon, et paillage, quelles sont les solutions les plus efficaces? Parce que ça limite les mauvaises herbes et ça permet aussi de garder l'humidité.
Voilà, exactement. Parce que quand on parle de paillage, c'est vrai que ça peut être un paillage minéral ou un paillage plutôt végétal. Donc des copeaux de bois, des roseaux de Chine. Enfin, il y a un tas de possibilités qui existent, qu'il faut aussi adapter en fonction des plantes qu'on va mettre. Et c'est vrai que ce paillage, il va permettre justement à garder l'humidité d'une part et puis à éviter le développement d'herbes indésirables. Et puis si on parle de plantes couvre-sol, bah, c'est vrai que les plantes couvre-sol, c'est aussi une bonne technique pour tapisser par exemple un talus. Maintenant, il faut planter très dense pour avoir des bons résultats et puis adapter aussi notre densité par rapport aux plantes qu'on va mettre.
Christophe, quand on... Oui.
Bon, oui, je voulais juste demander à Christophe si les gens qui nous écoutent, ils se disent « Ah ben, plante couvre-sol, c'est une bonne solution ». Vous pourriez nous en citer quelques-unes pour nous donner des idées ?
Alors, il y a des géraniums vivaces, il y a des thyns rampants, il y a du sédum. Donc après, il y a les pervenches, donc les vincas. Il y a vraiment les lierres aussi, peut-être un petit peu à proscrire en plaine parce qu'ils sont un peu envahissants. Mais en tout cas, en montagne, ça fonctionne bien. Il y a vraiment un tas de possibilités, mais encore une fois... Il faut l'adapter au talus qu'on va avoir, c'est-à-dire au sol, à l'exposition. Donc chaque talus est différent et c'est important de bien adapter et puis de faire un bon choix. Puis après, panacher aussi les plantes, c'est-à-dire avoir plusieurs plantes dans le même talus, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées. C'est pas toujours bien parce que finalement, il y a souvent une plante qui prend le dessus sur l'autre. Donc chaque situation est différente, chaque jardin est différent. Et si on adapte, on arrive à avoir des super résultats. Mais c'est vrai que voilà, il faut prendre le temps d'analyser et de trouver la bonne solution.
Et on va rester un peu dans les exemples concrets. Quand on veut un jardin facile, simple à gérer, quelles sont peut-être les plantes robustes que vous conseillez ?
Alors, j'aime beaucoup utiliser les plantes vivaces. Hein. Donc, dans les plantes vivaces, on a déjà toute la partie des graminées, si on veut amener un petit peu de verdure, et puis ces herbes qui bougent avec le vent. Donc là, c'est quand même très rustique. Après, on a les lavandes. Hein. La lavande, c'est un classique, mais on peut aussi varier un peu, parce qu'il y a des lavandes blanches, il y a des floraisons un peu sympas et différentes. Il y a la sauge, les népétas, il y a toutes les échinacées, le sédum... Donc ça, c'est toutes des plantes, enfin les différents sédums, c'est toutes des plantes qui sont vraiment adaptées aussi au climat qu'on a un peu chez nous.
Puis à l'inverse, Christophe, est-ce qu'il y a des plantes magnifiques, mais qu'on regrette parfois d'avoir installées tellement elles demandent d'attention ?
Ben oui, on a le buis par exemple, c'est très sympa, mais c'est un peu fastidieux parce que si on veut un résultat, il faut le tailler régulièrement et puis on a en plus la pyrale du buis, donc c'est pas top. On a les gazons anglais, si on veut un gazon bien bien tondu, bah ça demande un entretien qui est très très soutenu. On a tout ce qui est rosier, hein, donc les rosiers c'est très délicat aux pucerons et différentes maladies, donc ils demandent beaucoup de soins. Les delphiniums aussi, donc les pieds d'alouette, une plante qui se couche facilement. Les bambous traçants à éviter parce qu'on est aussi envahi assez vite. Et puis toutes les plantes annuelles qui sont gourmandes en eau, etc. Donc là, on a un entretien qui doit être très régulier.
Merci Christophe. Juste après la musique, on parlera gazon, eau et erreurs classiques qui compliquent inutilement la vie des jardiniers.
7h, 8h, les jardinières.
On est toujours avec Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Et ce matin, on cherche des solutions pour profiter davantage de son jardin et passer un peu moins de temps à l'entretenir.
Alors, il y a une part importante du jardin, c'est le gazon. C'est souvent ce qui demande le plus de travail. Est-ce qu'on cherche aujourd'hui à réduire ces surfaces de pelouse, Christophe ?
Alors oui, la tendance, elle est à réduire ces pelouses. Donc, en garder une petite pour peut-être, bah, je sais pas si... Il y a des enfants, ils ont envie de faire un peu de foot, etc. D'avoir une petite partie, c'est bien. Après, si on a des grosses surfaces, je pense que ce qui est vraiment le plus judicieux, c'est de pouvoir transformer une de ces parties en prairie fleurie, par exemple, ou en gazon fleuri, pour apporter plus de biodiversité, des petites fleurs. Et puis voilà, on a après un jardin qui est vraiment plus vivant, je dirais, que d'avoir juste une énorme surface en gazon.
Et quand on garde du gazon, alors est-ce qu'on peut tondre moins, mais mieux ?
Oui, on peut réduire, espacer un peu les tontes. D'une part, ça va être aussi une des méthodes pour ne moins arroser, parce que finalement, avoir un gazon qui est tondu à ras, il va très vite sécher en été. Donc, de le laisser plus long pendant l'été, ça va éviter juste qu'il sèche et d'avoir besoin de l'arroser.
Christophe, avec les étés parfois plus secs qu'on a en ce moment, beaucoup de gens cherchent aussi à jardiner avec moins d'eau. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre? Là, vous l'avez dit, on laisse le gazon plus haut. Il y a d'autres tips à connaître?
Disons que le plus important, si c'est pour les zones potagères ou les plantations, plantes vivaces, etc., c'est vraiment le paillage qui va aider. De récupérer aussi un peu les eaux de pluie, hein, ça c'est important. Donc d'arroser peut-être moins souvent, mais plus abondamment pour que le sol retienne bien l'eau. Et puis après, on a aussi des possibilités avec des oyas, par exemple. C'est un pot qu'on va enterrer sous terre et puis en terre cuite qu'on va remplir d'eau, puis qui va garder l'eau puis la diffuser très lentement. Et voilà, ça c'est des méthodes qui sont fréquemment utilisées. Mais après, encore une fois, je reviens sur ce qui a été dit un petit peu plus en amont dans l'émission, c'est de bien adapter les plantes à l'endroit.
Et on voit aussi revenir des jardins un peu plus libres, moins stricts et parfois plus naturels. Est-ce que ce type de jardin demande finalement moins d'entretien?
Oui, bien sûr. Si on prend un jardin, je pense à un jardin qu'on va aménager pour avoir de la biodiversité, qu'on va choisir des essences indigènes. Donc, qui dit indigène, dit une plante qui est adaptée, qui pousse comme ça naturellement sans qu'on ait besoin d'y apporter beaucoup d'attention. Des prairies fleuries. Voilà, on a tout de suite un jardin qui devient beaucoup plus facile d'utilisation. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de travail, mais il y en a vraiment beaucoup moins. Et puis voilà, ça paraît plus vivant, plus sauvage. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire et à développer.
Et puis, il y a certaines erreurs qui compliquent énormément la vie au jardin. Christophe, quelles sont celles que vous voyez le plus souvent chez vos clients, chez les particuliers?
Alors, ce que je vois le plus souvent, c'est des plantes qui sont trop serrées. C'est-à-dire que on va acheter un petit arbuste, un petit sapin, il est tout joli. Et puis finalement, c'est un sapin qui va venir à 20-30 mètres. Et puis à un moment donné, il va être dangereux pour la maison. Il va falloir l'abattre. Ou alors des arbustes qui sont plantés vraiment à 50 cm alors qu'ils ont besoin d'un bon 2 mètres d'espace. C'est un exemple. Hein. Des plantes plantées au mauvais endroit ou dans le mauvais terrain. On a des sols dans la région, je dirais, d'une manière générale, assez calcaires. Et puis on voit des fois des rhododendrons ou des myrtillers qui poussent dans les sols acides, qui sont plantés, et puis ils sont pas beaux, forcément, ils n'ont pas le bon sol, le sol adapté. Des tailles excessives aussi. On voit souvent, malheureusement, dans les jardins, des plantes qui deviennent peut-être un peu grandes parce qu'elles sont, encore une fois, pas plantées au bon endroit, et puis on doit les rabattre à coups de tronçonneuse. Et puis des arrosages, pour donner une réponse encore par rapport à l'arrosage, arrosage qui se fait tous les jours alors qu'on a meilleur temps d'attendre peut-être une fois tous les 2-3 jours, voire une semaine, puis d'arroser un grand coup plutôt que d'arroser tout le temps un petit peu parce que finalement l'eau ne descend pas en profondeur. Et puis, je peux encore parler des sols qui sont laissés à nu, c'est-à-dire on désherbe tout un coin et on laisse le sol à nu et ça s'érode. Enfin voilà, c'est de pouvoir mettre absolument un paillage sur ce sol ou des plantes qui le tapissent. Et puis, souvent l'erreur, on va dire, des particuliers, c'est de vouloir un résultat immédiat. Et finalement, encore une fois, patience, quand on plante, ça peut paraître un peu nu au départ, mais finalement, c'est 2-3 ans plus tard qu'on commence à voir le résultat d'un jardin au niveau des plantations.
Merci beaucoup, Christophe, pour tous ces conseils. On va encore parler de ce jardin facile à vivre. On s'offre tout de suite une petite pause musicale. Et après, ce sera aussi place à vos questions jardinage.
Les jardinières.
Tous les samedis matins, entre 7h et 8h, vous vous réveillez en compagnie des jardinières et de leurs invités. Ce matin, nous sommes en compagnie de Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont et propriétaire de Jardin Conseil. Christophe, nous avons misé sur les bons choix à faire pour se simplifier la vie au jardin, des plantes robustes, du paillage, encore des surfaces de gazon. On a encore une question pour vous avant, et puis ensuite on passera aux questions de nos auditeurs.
Mais pour poser vos questions, c'est simple. Vous pouvez nous appeler au 0900 170 20 20. Vous parlerez en direct avec Christophe, mais aussi avec nous. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement écrire un SMS. Vous tapez jardin suivi d'un espace, de votre question, de votre nom et vous envoyez tout ça au 939.
Alors Christophe, au fond, un jardin facile à vivre, c'est surtout un jardin bien pensé dès le départ. Alors selon vous, quels sont les points les plus importants à prévoir dès la conception pour avoir ensuite un jardin agréable et facile à entretenir ?
Alors d'après moi, c'est important justement d'avoir une conception et puis une vue générale du jardin, donc de savoir un petit peu comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on souhaite avoir dans notre jardin. Donc c'est pas forcément évident, c'est là où je pense qu'un appel à un professionnel pour faire peut-être un projet, un dessin du jardin, après avoir vu avec le client les différentes attentes du jardin. Mais aussi, on parle d'un nouveau jardin, mais aussi peut-être un jardin déjà existant, parce qu'on peut toujours aussi adapter un... On parle de rénovation de jardin, mais on peut adapter un jardin un peu et lui redonner vie tout en conservant les végétaux qui sont déjà en place. Donc, moi, j'aime bien déjà commencer par la partie un peu construction, donc déjà regarder un petit peu les souhaits de terrasse, etc., de vis-à-vis, d'ombrage, de ce qu'on va chercher. Et puis après, on va commencer à placer un peu, une fois qu'on a placé nos constructions, on va commencer à placer un peu nos végétaux. Et puis, au fond, c'est chaque jardin doit être différent, doit être adapté un petit peu aux besoins des personnes qui vont vivre dans ce jardin. Et puis, s'adapter aussi au mieux dans le milieu naturel où il est placé. Et je pense qu'un jardin, ça doit être un peu la liaison entre ce qu'on a autour de notre propriété et puis jusqu'à notre intérieur.
Eh bien, merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions. On va garder cette phrase pour terminer. Chaque jardin est différent et ses besoins sont aussi différents. On retrouve vos conseils en cours de matinée sur notre site. Et puis, comme vous l'avez dit, ne pas hésiter à faire appel à un spécialiste. Dans la suite des jardinières, on va répondre à vos questions parce qu'il y en a pas mal. Ça sera juste après un peu de musique.
Les jardinières.
7h42 chez les jardinières, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en cours de route, juste à temps pour le début des questions, de vos questions que vous nous avez envoyées cette semaine et ce matin avec une première qui nous vient de Jérôme de Hall.
Oui, il nous dit « Bonjour, comment faire pour réveiller une terre dans une petite serre qui est restée 3 ans sans vie et qui est très très sèche ?» Et il se demande aussi « Peut-on bien arroser une fois et planter des tomates ?» Alors on va d'abord voir comment faire pour réveiller la terre. Christophe, j'imagine qu'on ne peut pas lui balancer du café, ça marche pas.
Non, malheureusement, ça ne marchera pas. Alors, pour répondre à Jérôme, c'est vrai qu'il faut plutôt réhydrater progressivement. Mettre beaucoup d'eau d'un coup, l'eau va avoir de la peine à rentrer dans le terrain. Donc, il faudrait arroser plusieurs fois. Et puis après, ce qui serait vraiment l'idéal, si ça a été justement laissé comme ça, c'est mettre à l'abandon pendant 3 ans. Il faut mettre du compost ou d'autres matières organiques, peut-être du fumier, griffer le sol et puis peut-être un peu, voilà, incorporer un peu, retourner un petit peu le terrain pour incorporer un peu cette matière organique et puis redonner vie à ce sol. Et puis ensuite, on peut planter nos tomates et puis faire un petit paillage.
Merci Christophe. La prochaine question nous vient de Valérie de Malaret. Elle nous a envoyé une petite photo à coller à sa question. C'est une plante qui est selon elle mal en point. Alors elle se demande ce qu'elle pourrait faire pour lui redonner un élan. Vous avez vu la photo. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, elle a pas l'air si mal en point que ça. Ça va, hein, c'est pas dramatique. Ce que j'ai pu observer sur l'image, c'est qu'il y a les deux feuilles du bas qui sont un peu plus jaunes. On pourrait les supprimer, les enlever. Et puis, je pense certainement que cette plante, elle a souffert, comme la plupart des plantes d'intérieur pendant l'hiver, d'un manque de luminosité, puis peut-être un petit excès d'eau. Donc, maintenant que le soleil revient gentiment, il faut lui mettre, je dirais, éventuellement la rempoter avec un terreau adapté, un petit drainage au fond du pot, lui mettre un petit peu d'engrais et puis lui enlever ses deux feuilles. À mon avis, elle va repartir sans problème.
Merci, j'espère que la plante de cette personne pourra repartir de plus belle. On a reçu une question de Lynn de Courandelin qui nous dit qu'elle a planté un abricotier en novembre 2024. Et bonne nouvelle, cette année, première floraison. Elle constate que son abricotier a fait des pousses en bas du tronc. Elle aimerait savoir s'il faut les couper maintenant pour apporter du peps à l'arbre ou est-ce qu'elle doit attendre la prochaine tonte des arbres fruitiers en début d'année prochaine. Et puis, elle a joint une photo de son abricotier. Il a l'air en forme et on voit ses petites pousses en bas. Alors, Christophe, on attend vos conseils.
Effectivement, l'abricotier a l'air d'aller super bien. Ses pousses, on peut les enlever maintenant. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, et effectivement, ça va concentrer l'énergie vers le haut de la plante. Donc, on peut voir ces petites pousses sur la photo qui pousse sur le tronc plutôt dans la partie basse. Donc, il faut simplement venir avec un sécateur qui est au préalable désinfecté et puis mettre la lame contre le tronc et couper ses pousses.
Merci Christophe, on a encore une question de Rebecca. Quels outils font-ils vraiment gagner du temps pour quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper pleinement de son jardin, donc lié à notre sujet du jour?
L'outil qu'on voit le plus fréquemment dans les jardins, c'est le robot tondeuse, hein, qui est une bonne idée pour économiser du temps à la tonte. Qu'on peut aussi, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, le rehausser, le mettre assez haut pour pas avoir une tonte trop courte qui détruit un petit peu tout. Et après, le robot tondeuse, il faut savoir que quand on a mis en place un robot tondeuse, on devrait en principe deux fois par année scarifier, parce que qu'est-ce qui se passe? Le robot tondeuse, il lâche un petit peu l'herbe, mais il va pas... Ça va des fois mettre un peu de temps avant de se dégrader, donc ça arrive fréquemment que dans ces gazons où il y a des robots tondeuses, le gazon devient pas très beau au bout de quelques années parce qu'il n'est pas scarifié, on doit un peu l'aérer. Ça, c'est une première chose. Et puis après, sinon, il y a un peu les outils à main pour qu'on a eu l'habitude de voir pour un peu aérer le sol, ou alors de sarcler un petit peu autour des plantes pour les personnes qui veulent pas encore mettre du paillage partout. Ça permet justement, comme on dit, un bon sarclage vaut deux arrosages. Ça permet un peu d'aérer, de permettre à la pluie de rentrer mieux dans les plantes. D'ailleurs, petite astuce aussi que j'utilise fréquemment à la maison, alors c'est aussi mes enfants qui s'en chargent, mais de gratter un petit peu le tour des plantes d'appartement, des pots où c'est devenu un peu dur, ça permet justement une bonne répartition de l'eau et puis un échange avec l'air qui est meilleur.
Une solution pour pas trop se fatiguer au jardin, faites des enfants qui iront gratter la terre. Merci beaucoup Christophe, on se retrouve dans un instant pour la suite des jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Et on arrive dans la dernière partie de cette émission des jardinières avec vous, Christophe Boischat, paysagiste au Noirmont. Avant de vous laisser filer, on a encore quelques questions pour vous. Une auditrice nous a écrit ceci. Comment savoir quel espace on doit laisser entre les arbustes? Elle a des plantes trop serrées et elle se demande si elle peut les déplacer.
Alors, à cette période-là de l'année, c'est un peu délicat de déplacer une plante, mais à partir de l'automne, oui. Après, c'est en fonction du développement adulte de la plante. Donc, je peux pas répondre formellement. Mais quand on fait une haie vive, généralement, on laisse entre 1 et 2 mètres d'espace entre les arbustes pour qu'à taille adulte, tout se touche et puis qu'on ait quelque chose de fermé. Maintenant, si c'est un arbuste qui a un beau développement, qui fleurit bien, qui est très étalé, ça peut même être jusqu'à 3-4 mètres de distance. Hein. Donc, ça dépend vraiment de l'essence.
On va poursuivre avec une question sur des choux-pommes. Mes tiges de plantons de choux-pommes sont pleines de fourmis et comme pelées. Alors la personne ne sait pas si c'est des fourmis ou pucerons qui font ça. Elle aimerait savoir s'il faut agir.
Alors à mon avis, c'est les pucerons. Donc peut-être utiliser du savon noir parce que les fourmis élèvent les pucerons. Donc s'il y a des fourmis, c'est pas les fourmis qui font des dégâts, c'est les pucerons qui sont en principe aux extrémités.
C'est une haie de thuya qui devient brune par endroit et la personne aimerait savoir si c'est normal. Maria aimerait savoir, elle a envoyé une photo, Christophe, que vous avez sous les yeux. Et c'est vrai que parmi le vert de ce thuya, il y a des taches brunes. C'est joli, mais c'est peut-être pas bien.
Ouais, ça donne un peu des couleurs automnales. Une haie de thuya, elle a toujours une certaine durée de vie. À un moment donné, il y a beaucoup d'insectes à l'intérieur, ça se dénude. C'est vrai que les haies de thuya, elles restent pendant plusieurs dizaines d'années quand même assez belles. Et puis là, on voit qu'il y a des branches qui se dessèchent. Donc à part couper ces branches et puis prévoir dans les années à venir un remplacement, il n'y a pas de bonnes choses à faire. On peut leur mettre un peu d'engrais, on peut essayer de les soigner. Mais c'est vrai qu'elles ont une certaine durée de vie, ces haies de thuya.
Alors Christophe, avant de vous laisser partir, vous, personnellement, est-ce qu'il y a une tâche de jardinage que vous aimez particulièrement éviter?
Alors, comme presque tous les jardiniers, c'est surtout le désherbage, parce que finalement, Durant mon école, j'ai fait ça pendant presque une année. Et puis, c'est toujours la chose qui nous, on a un petit traumatisme par rapport à ça. et on n'a plus trop envie de désherber. Non, mais après, pour être honnête, j'aime bien, j'ai pas vraiment de tâches qui me déplaît dans ce métier. C'est toujours un plaisir d'être à l'extérieur et puis de mettre les mains dans la terre.
Et comme c'est toujours un plaisir de vous recevoir chez les jardinières. Merci beaucoup, Christophe. On rappelle que vous êtes paysagiste au Noirmont et propriétaire de Jardin Conseil. On vous souhaite un bon week-end, pas trop de désherbage, et à très bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde.
Et rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une nouvelle émission. Et on attend déjà vos questions jardinage que vous pouvez nous faire parvenir via les formulaires que vous trouvez sur notre site. Bon week-end, Mylène.
Alors, juste pour préciser que la semaine prochaine, il n'y aura pas de questions jardinage parce qu'on va parler, Noélie, de plantes carnivores, oui, avec Olivier Martaler qui vit à La Chaux-de-Fonds et qui possède chez lui des centaines de plantes carnivores. On aura le plaisir de le recevoir comme invité samedi prochain chez les jardinières. Donc les questions, on y répondra une semaine plus tard. Voilà, merci beaucoup Noélie, je vous souhaite un bon week-end.
Merci à vous aussi Mylène.
7h, 8h, les jardinières.